les horloges nous rapprochent de ta venue. Même si le temps qui passe est oublié révolu, même si notre saison se pose sur nous comme une échéance, gardons la foi. Gardons l'espoir, car n'est pas vaine, en Jésus, ta souffrance. Même si notre chemin est difficile à parcourir, même si notre destin nous amène murmures et soupirs, même si l'amour donné semble perdre sa puissance, gardons la foi. Gardons l'espoir, car n'est pas vain. Seigneur Jésus, tu es venu sur cette terre sans compter. Jésus, pour nous pardonner de nos péchés, gardons la foi, gardons l'espoir, car n'est pas vain, ô Jésus, ta souffrance. Même si toutes les horloges nous rapproche de ta venue, même si le temps qui passe est oublié évolu, même si notre saison se pose sur nous comme une échéance, gardons la foi, gardons l'espoir. On n'est pas même Jésus, ta souffrance.
Bien, bonjour à tous. La dernière fois, on a écouté ce que Jésus avait dit au sujet de l'aumône dans la série des prédications sur le sermon sur la montagne. Aujourd'hui, on va écouter ce qu'il a à nous dire au sujet de la prière. Donc on va lire Matthieu 6, 5, 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent à prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues pour se montrer aux gens. Amen, je vous le dis. Ils tiennent leur récompense, mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multiplie pas les paroles comme les non-juifs qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Faites vous asseoir. Alors, c'est le deuxième exemple. Vous savez, je vous avais dit, Jésus prend trois exemples au sujet de la justice chrétienne dans le domaine religieux. Et ce deuxième exemple, il est absolument bâti de la même manière que le premier exemple au sujet de l'aumône. Vous vous rappelez un peu, sinon ben, vous réécoutez la prédication. C'est ce qu'il y a de bien maintenant, hein. On peut réécouter les prédications tant qu'on veut. Notre frère Richie, notre frère Eric Jacques s'occupent de mettre tout ça sur Révélation Bible, c'est super. Et on peut réécouter. Donc, quand on regarde en vitesse cette parole-là qu'on vient de lire, c'est-à-dire sans la considérer, vous vous rappelez qu'est-ce que ça veut dire considérer, hein? Je vous ai montré ça vendredi passé, ça veut dire regarder attentivement et longtemps. Hein? Mais si on ne regarde pas attentivement et longtemps, ben tout est bien. Tout est bien. Les hypocrites aiment prier, ben c'est super. Les hypocrites aiment prier, ben au moins ils ont ça. Hein? On peut dire c'est super. Mais non, le problème est que, voilà, ce n'est pas la prière qu'ils aiment. Ce n'est pas même le Dieu qu'ils prient qu'ils aiment. Ce qu'ils aiment, c'est la possibilité que leur donne la prière de se faire voir. Vous voyez, ça c'est terrible. Alors, c'est bien de se discipliner à la prière, c'est bien de prier régulièrement. Daniel, lui, il priait 5 fois par jour. On trouve ça dans Daniel 6, 11, c'est très bien de le faire. Et tous les Juifs qui croyaient à cette époque faisaient la même chose. Je crois qu'ils font toujours la même chose. Hein. Et il n'y a aucun mal à se tenir debout. Hein. Jésus ne critique pas le fait de se tenir debout. Là, il dit ils aiment à se tenir debout, mais ce n'est pas ça qu'il critique. Les Juifs priaient comme ça, puis vous les voyez encore prier comme ça. Quand vous les voyez dans les synagogues, on est allé voir, on est allé avec eux prier, et ben ils prient debout. Vous les avez vus devant le mur des Lamentations, ils prient debout. Et puis quand ils prient trop longtemps, ben comme dans la chambre haute, ils étaient assis, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils n'étaient pas à genoux. Hein. Moi, je ne peux pas prier à genoux longtemps. Hein. Eux, ça faisait des jours et des jours qu'ils priaient. Ils étaient assis, et c'est là comme ça qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas la position que Jésus critique, ce n'est pas là où est le problème. Qui prie debout, Jésus n'y trouve rien à dire. Qui prie au coin des rues, Jésus n'y trouve rien à dire. Parce qu'en fait, prier dehors, en fait, c'est bien, c'est mettre ce qui est sacré, c'est mettre cette espèce d'idée du sacré un petit peu à la portée de tout le monde. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas un endroit où Dieu est enfermé. Moi, je me rappelle toujours, quand j'étais jeune, inconverti, je lisais un journal qui s'appelait Harakiri, le journal bête et méchant. Puis, alors, ils avaient fait une église, et puis à la place des vitraux, c'était des barreaux, puis il y avait une main qui sortait, puis il y avait des gens qui jetaient des cacahuètes. C'était affreux. Ils disaient que Dieu était enfermé dans les églises comme les animaux sont enfermés dans les zoos. Voilà, ben, c'est un petit peu l'idée que les gens ont, hein, quand Dieu est dans l'église. Alors, on me dirait, mais non, Dieu, on sait bien que Dieu est partout. Oui, ben, alors il faut le prouver qu'on croit que Dieu est partout, parce que si vraiment on croit que Dieu est partout, ben, on ne fait pas n'importe quoi. Hein. Ben, dans les églises, tout le monde prend un air bien comme ça, et puis dehors, ben, ils vivent n'importe comment. Non, non, non. Donc voilà, en dehors de l'église, en dehors de la synagogue, c'est pas mal. Jésus n'a rien contre le fait de sortir du lieu saint pour prier. Il n'a rien contre ça. Ce que Jésus dénonce, c'est les motivations qui poussaient ces hypocrites. C'est leur motivation à prier publiquement, les mains levées au ciel, c'était parce qu'ils aimaient être vus des hommes, être vus des gens. Derrière leur piété apparente, qu'est-ce qui se cachait? Ben, leur orgueil, leur fierté. Et Jésus leur dit tout de go, ben, votre récompense, vous l'avez. Vous êtes admirés, tout le monde dit, oh là là, c'est son spirituel. Formidable. Et l'esprit de pharisianisme, il a la peau dure. Encore de nos jours, hein, on dit toujours, moi je me rappelle, il y avait un sketch de Fernand Reynaud qui disait « On va à l'église pour montrer son chapeau ». Vous vous rappelez de ça, non? Ben voilà, c'est une espèce de pharisianisme de nos jours. Et les pharisiens de l'époque de Jésus sont morts, mais les esprits qui les habitaient ne sont pas morts, ils sont toujours vivants. Ils ont simplement retrouvé des nouvelles personnes pour continuer leur œuvre et avoir la réputation d'être quelqu'un de pieux. L'autre soir, Michou et moi, on regardait une émission sur l'opéra à la télévision, et puis le chanteur disait, ah oui, monsieur Sarkozy, il vient à l'opéra, et la présentatrice lui disait, ah, il aime l'opéra, il dit non. Ah bon, non, non, il vient juste parce que ça fait bien. Par contre, je crois, c'était madame Bachelot, c'est ça, hein, elle aime, hein, quand on parle avec elle, on s'aperçoit que vraiment elle aime. Alors vous avez des gens qui vont à l'église aussi, hein, à l'enterrement, mariage, ou... Par ça, bon, voilà, c'est tout. C'est juste pour avoir une réputation. On n'est quand même pas des païens, hein? Voilà, on n'est quand même pas des païens. Alors, quand on en arrive là, ben, notre service auprès de Dieu, ben, il est méprisable. Vous vous rappelez, c'est le contraire du mot respect, mépris. La religion pure et sans tache, elle ne doit pas se transformer en cette forme d'exhibition. Alors, qu'est-ce que Jésus attend de nous qui sommes ses disciples? C'est ça le truc. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Parce que c'est bien de montrer du doigt les autres en disant, ah, oh, c'est pas bien ce qu'ils font. Mais nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il attend que nous entrions dans notre chambre et puis qu'on ferme la porte et qu'on prie dans la discrétion. Sans être distrait, sans risquer d'être dérangé, en évitant d'attirer les regards des indiscrets, en désirant être seul à seul avec Dieu dans un lieu secret, comme dit Jésus. Moi, je me rappelle quand on allait dans des réunions de motivation, la première chose qu'on disait, c'est « Éteignez vos portables. Est-ce que vous éteignez vos portables quand vous allez à votre hôtel de prière ?» Important. C'est important. Hier, j'étais avec un ami, et au bout d'une heure, j'ai dit « Ah, mais c'est génial, mon téléphone ne sonne pas. C'est super. » En effet, il n'y avait pas de réseau. Et voilà pourquoi il sonnait. Il faut toujours être, quand on est en présence de Dieu, faire attention, s'assurer que personne ne nous dérange. Moi, vous avez vu, je prépare mes messages, tout ça, mais il y a des moments où je marque sur ma porte, ne pas déranger. Là, je ne veux pas parce que c'est trop. C'est nécessaire d'avoir un... Par exemple, le téléphone, maintenant, je n'ai plus de ligne fixe dans mon bureau parce que c'est trop, c'est insupportable. Les gens, comme c'est moins cher de téléphoner sur les lignes fixes, ils vous appellent sur les lignes fixes pour dire « Comment ça va ?» Moi, je suis en pleine méditation, et « Ça va ?» Comment ça va? Comme c'est comme ça. Non, 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 il faut arrêter. Il faut être sûr que, voilà. Là, ce que Jésus veut, c'est qu'on soit dans un endroit secret, c'est-à-dire qu'il ne soit pas connu des autres, ou alors protégé. Mes frères et sœurs, ce qui enrichit la prière que vous faites, c'est le sentiment, c'est-à-dire la conscience de la présence de Dieu. C'est ça qui enrichit la prière. La conscience de la présence de Dieu dans l'intimité, avec vous, tout seul. L'essence de la prière... C'est l'entrée consciente dans la présence de Dieu. Vous vous rappelez, une fois je vous avais expliqué, mais réfléchissez, pensez, voilà, vous entrez dans la salle du trône, vous avez tous vu des films où il y a le roi qui est assis à l'autre bout de la salle du trône, et puis il y a tous les courtisans qui sont là, les gardes, les machins, de tout ça, les ministres du roi, et puis vous avez quelqu'un qui rentre, alors il doit marcher pour arriver jusqu'au trône. Ben vous imaginez, voilà, je marche comme ça, il y a les anges qui me voient et je rentre dans la présence de Dieu. C'est pas rien. On n'arrive pas. Bon, on va prier. Seigneur, mon Dieu, je te prie. Non, attendez, non. Il faut se mettre en état, dans un état d'esprit. Il faut se mettre en état pour pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Parce que quand je dis rentrer dans la présence de Dieu, ça veut dire rentrer dans la présence d'un Dieu qui est volontaire, qui a une volonté. Qui sait, lui, très bien ce qu'il veut. Nous aussi, quand on arrive dans la présence de Dieu, on sait ce qu'on veut. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est ce que Dieu veut aussi? Et c'est important de savoir, parce qu'il n'y a que les prières qui sont selon la volonté de Dieu qui sont exaucées. C'est ça le truc. Par exemple, je dis toujours, prier pour un malade, ça c'est une bonne chose, parce qu'on sait que Dieu veut guérir les malades. C'est vrai. Oui, mais. Parce qu'il y a toujours un oui, mais. Oui, mais. Pourquoi veux-tu prier pour les malades? Pour te faire voir? Alors là, ça ne marche plus. Dieu, il voit ton cœur, il connaît. Pour qu'il soit guéri? Ça peut sembler une bonne motivation de dire, moi je veux prier pour que les malades soient guéris, parce qu'ils souffrent tellement, c'est épouvantable. Eh bien pourtant, ce n'est pas la motivation qui doit nous conduire dans la prière. Ce n'est pas la motivation qui doit nous faire entrer dans la salle du trône pour aller prier. La motivation, quand tu pries pour un malade, c'est que Dieu soit glorifié en fin de compte. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est ça qu'on doit avoir dans l'esprit. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Prier selon la volonté de Dieu, c'est prier pour que les réponses que Dieu va nous donner, nous accorder, les miracles qu'il va nous accorder, le glorifie, lui et lui seul. Dieu m'a appris très vite ces choses. C'était à Morges, je ne vais pas vous dire le nom de la dame, mais je m'en souviens toujours. C'était des gitans, ils avaient prié pour une femme, j'étais là, qui avait un corset du ras la tête, là, au cou, jusqu'en bas. Elle avait une décalcification des os. Et son mari était là, et ils l'ont transportée, les gitans ont prié, et puis elle est rentrée, enfin, ils l'ont rentrée chez elle, et la nuit, dans son corset, elle a senti que vraiment quelque chose s'était produit. Elle a demandé à son mari d'enlever tout ce corset, toute cette affaire, toute cette ferraille, tout ce plâtre, tout, enfin, je ne sais pas quoi c'était. Et elle s'est assise, et elle s'est levée, et elle a fait, je ne sais plus, je crois, 3-4 kilomètres à pied avec son mari pour aller en pleine nuit réveiller les gitans pour leur montrer le miracle. C'était extraordinaire. Au culte, le dimanche matin, elle était là. Elle est venue partout rendre témoignage. Elle est même venue à Puydoux, c'est-à-dire le village à côté du mien, parce que le pasteur de Puydoux s'appelait Gander, il doit être décédé maintenant. Eh bien, le pasteur Gander, il avait voulu qu'elle vienne rendre témoignage. Donc, elle était venue rendre témoignage là de sa guérison. C'était quelque chose de phénoménal. Elle avait tous les papiers, tous les trucs qui prouvaient que c'était extraordinaire. Voilà, Et puis les gitans sont repartis. Et l'année d'après, les gitans reviennent. Et ils disent, où est-ce qu'elle est, madame Untel? Ah ben, madame Untel, oh là là, si vous voyez dans quel état elle est. Alors, les gitans disent, ah bon, qu'est-ce qu'elle a? Mais c'est pire qu'avant. Et c'est épouvantable, elle est nouveau dans le corset, mais c'est pire qu'avant, elle souffre, c'est une horreur. Elle est... Puis alors, elle est aigrie contre Dieu et tout. Et il y avait Camilla qui était là. Camilla, c'est la maman de Violette, la belle-mère de Raphaël. Elle dit, moi, je vais aller la voir. Elle y va, elle prie en chemin, elle arrive, donc, bonjour, je suis la sœur Camilla. Oui, je vous connais, entrez et tout. Elle va voir cette femme qui était allongée comme ça. Il dit, alors ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Commence à rouspéter, à râler et tout. On va prier, ma petite sœur, on va prier. Commence à prier. Et puis Camille a dit d'un coup, mais sœur, moi je sais pourquoi vous êtes retombée malade. Dieu vient de me le montrer. Ah bon? Oui, oui. Plutôt que de déclarer à votre assurance que vous avez été guérie par le Seigneur Jésus, vous avez continué à toucher l'invalidité. Et vous avez pas dit que Jésus vous avait guéri. Vous avez continué à toucher cette pension à invalidité. Et la maladie est revenue, les mauvais esprits sont revenus. Quelle était la motivation du malade? Ben, la guérison, évidemment, sur le moment. Mais après, cette femme, elle avait vraiment en elle-même un sérieux problème avec la gloire de Dieu. Elle pensait à ses sous, d'abord. Vous voyez? Elle avait caché sa guérison à l'assurance maladie pour pouvoir toucher l'argent de sa pension invalidité, alors que Dieu l'avait guérie. Elle n'a pas rendu gloire à Dieu. Oh, elle a rendu gloire à Dieu dans les églises. Ça, oui, elle allait partout rendre gloire à Dieu dans les églises. Mais pas là où il y avait quelque chose qui pouvait lui rapporter du pognon. Vous voyez où vont se nicher les mauvais esprits? Ben, le Seigneur l'avait révélé à Camilla. Il dit, comment vous savez ça? Il dit, c'est Dieu qui m'a montré. Alors, repentez-vous, sinon vous allez mourir comme ça, dans cet état-là. Hein. Alors, ils ont prié ensemble, et puis le Seigneur l'a guérie, elle a enlevé son corset de machin, et puis elle était totalement guérie. Par contre, elle a vite été à l'assurance pour témoigner de sa guérison. C'est un cas qui est très connu à Morges, c'était en 68 et 69 que ça s'est passé. Dieu voit tout. Et la Bible nous dit que Dieu se cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ça veut dire Dieu se cherche des adorateurs qu'il adore d'une façon spirituelle et vraie. Vraie. Pas spirituelle et faux. Hein, les pharisiens, c'était spirituel. Ils priaient. Ils avaient l'air spirituel, mais c'était faux. La guérison des malades, c'est bien sûr un acte de compassion de Dieu. C'est sûr que Dieu a compassion des malades. Mais avant ça, c'est un acte d'utilité pour sa gloire à lui. Alors, certains vont dire, oui, mais alors, il pense qu'à sa gloire. Non, oui, exactement, exactement. Vous n'êtes pas à son niveau pour savoir ce qui se passe, pour connaître ce qui se passe dans les lieux élevés. Vous ne savez pas. Il est le roi des rois, il est le Seigneur, il est le Dieu, tout-puissant, créateur et tout. Et nous sommes ici sur cette terre pour l'adorer. Il cherche ça. Parce qu'il en a besoin dans son combat. Vous comprenez? Voilà. Alors, voulez-vous être un adorateur, mais en plus vrai? Alors, la gloire de Dieu doit éclater, c'est ça qui est le plus important. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que quand on prie pour un malade, par exemple, on dit oui, mais de toute façon, c'est la volonté de Dieu qu'on prie pour les malades. Oui, mais la prière pour les malades, elle doit être précédée de quelque chose, parce que la prière pour les malades, elle sert à confirmer que la parole qui était annoncée, elle est vraie, elle est juste, elle est authentique. Ça, c'est dans la Bible, Marc chapitre 16, verset 20. C'est pour confirmer la parole prêchée que Jésus fait des miracles. Afin, encore une fois de plus, de se glorifier, afin d'authentifier la parole qui était prêchée, afin d'authentifier, pas le serviteur de Dieu, la parole prêchée. Je connais des gens qui sont faux dans leur vie, mais qui prêchent juste. Dieu ne les bénit pas eux, il bénit sa parole. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est pour ça que vous êtes sages, vous connaissez les choses. C'est pourquoi, avant de prier pour un malade, Je parle beaucoup. Je me souviens, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai prié pour un malade. J'allais prier pour un malade, il s'attendait à ce que j'arrive, puis que je prie. Et je me suis mis à parler, à raconter des témoignages, à parler. J'étais avec Michou. Au bout d'un moment, il s'est levé, il a dit « Bon, on prie ou quoi ?» Je dis « Oui, frère, bien sûr. » Puis j'ai continué à parler. Quand on nous invite à prier, c'est nous les maîtres de la situation. Et il faut parler d'abord de Dieu, parce que quand on parle de Dieu, de la Bible, des témoignages, de ce que Dieu a fait, alors on attire l'attention du malade, c'est ce que la Bible dit, j'attire tout esprit captif à la pensée de Jésus-Christ. Il faut les attirer à la pensée, il faut les mettre à notre niveau de foi. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ensuite, une fois que j'ai bien parlé comme ça, que la parole a édifié la foi de la personne, ou alors par la prédication, quand je prêche, vous avez des gens qui disent « Ah, mais nous, on prie pour les malades, mais il n'y a jamais de guérison. » Oui, alors ils vont prêcher sur le salut, ils vont prêcher sur l'abondance, ils vont prêcher sur tas de choses, puis à la fin, ils disent « Maintenant, on va prier pour les malades. » Ils n'ont rien dit sur la guérison et ils s'attendent à ce qu'il y ait des guérisons. Il ne va pas y avoir de guérison. Parce que Dieu bénit sa parole. Et si on ne parle pas de la guérison, comment voulez-vous? La foi doit augmenter sur le sujet des choses dont on a parlé. Je dis ça pour les prédicateurs qui m'écouteraient peut-être éventuellement sur le net. Prêchez la guérison, vous aurez des guérisons. La parole édifie celui qui l'écoute. Et après avoir parlé de Dieu, ben je me mets à parler de la part de Dieu, c'est-à-dire en son nom. Et là, les mauvais esprits m'entendent. Les esprits de maladie m'entendent. Et seulement après m'être assuré que les gens ont vraiment compris, je prie. Il faut être sûr que les gens ont vraiment bien compris. Parce que je ne veux pas que les gens comprennent de travers. S'ils comprennent de travers, ça ne va pas glorifier Dieu. Une fois qu'ils ont reçu leur guérison, ils vont faire n'importe quoi avec. Combien ont été guéris et vont vivre n'importe comment avec leur guérison dans le monde? Jésus nous a montré, il est 10 lépreux. C'est pour nous montrer un échantillonnage. Hein. Sur les 10, il n'y en a qu'un qui est venu le louer, l'adorer, faire en fait ce que Dieu cherche. 1 sur 10, vous voyez? Il faut être très prudent. Vous voyez ce que je veux dire ce matin, mes frères et sœurs? C'est qu'à l'origine de chaque prière, avant même que nous ouvrions la bouche, il y a quelque chose que Dieu dit avant nous, c'est « Cherchez ma face ». Ça. Il est là, mais c'est à nous de le chercher, parce que, bon, il est là, on le sait, intellectuellement, on le sait, mais spirituellement, on est des fois encombré par toutes sortes de choses, par du chagrin, par du tout du truc, et on doit se mettre dans un état, on cherche d'abord sa face, Si vous cherchez la face de Dieu, vous ne cherchez pas la face des gens. Si vous cherchez la face de Dieu, vous ne chercherez pas à plaire aux gens. Nous cherchons la face de Dieu dans l'humilité, la face de notre Dieu qui est Seigneur, la face de Dieu qui est notre Seigneur, qui est aussi juge, c'est pas de la rigolade. Cherchez ma face, dit le Seigneur. Alors on a une attitude intérieure, c'est-à-dire qu'on a une attitude de respect. Vous vous rappelez ce que ça veut dire respect? Quel jeune, hein, c'est-à-dire en moins en dessous de 20 ans, quel jeune peut me dire d'où vient le mot respect? Est-ce qu'il y a un jeune qui s'en souvient? J'ai dit ça vendredi. Oui? Merci Lucas. Regarder en arrière. Respect, ça vient de la racine d'un mot qui veut dire regarder en arrière, c'est-à-dire se souvenir de pourquoi l'Éternel s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite. Et le respect, on ne peut pas avoir une attitude de respect si on ne se souvient pas, si on ne se dit pas, mais qui est Dieu? Quelles sont les alliances que j'ai faites avec lui et tout? Alors ça nous met dans le respect. Vous voyez mes frères et sœurs, avant de prier, j'entre en moi-même, avant de prier, je regarde en arrière dans mon souvenir et je me souviens des alliances que j'ai passées avec Dieu. C'est très sérieux, c'est pas de la rigolade. Je ne peux pas dire, bon allez, on prie, hein, Seigneur, on en voit tellement qui font ça. Bien sûr que Dieu est présent, bien sûr que Dieu entend, mais eux sont pas dans une, ils sont pas dans l'attitude juste. Ils pensent que c'est bien, mais c'est pas bien. Il faut faire comme Dieu veut qu'on fasse. Il ne faut pas faire comme nous, on pense que c'est bien qu'il faut faire. Il faut se souvenir des alliances qu'on a passées avec Dieu dans l'amour, dans l'adoration, dans la confiance. Et puis alors là, on peut se mettre à prier, c'est-à-dire à demander. Alors voilà la volonté de Dieu. Vous savez, vous allez dire, oui, mais Michel, il pinaille sur les mots. Respect, qu'est-ce que ça veut dire respect? Alors Lucas, mon petit-fils, il se rappelle, voilà, respect, ça veut dire regarder en arrière. Ça vient d'un mot qui veut dire regarder en arrière. Bon, ah, ça c'est les mots. Michel, tu nous casses les pieds avec tes mots. Non, Jésus, il employait des mots pour parler, pour se faire comprendre. Et quand il a employé là, en parlant, il a employé le mot « chambre ». Vous vous souvenez? Quand tu pries dans ta chambre. Eh bien, le mot « chambre », c'est bien gentil en français, mais ce n'est pas tout à fait juste. Le mot qu'il a employé, c'est le mot « taméion ». Mais vous allez me dire, c'est quoi un taméion? Ben, taméion, c'était, à l'époque, tout le monde le savait, une chambre pour entreposer des trésors. Alors, quand tu pries pour que Dieu soit glorifié, quand tu es dans cette attitude spirituelle, mentale, physique, quand tu es dans cette attitude-là, que tu sois debout, assis, n'importe quoi, mais que tu es dans cette attitude-là, dans ta chambre, ça devient l'endroit où se trouve le trésor que Dieu a en réserve pour toi. Et là, Jésus dit, Dieu te le rendra. Il te le rendra. Pourquoi il te le rendra? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, il te le rendra? C'est ce que Jésus dit, il te le rendra. Ce trésor, il est à toi de toute éternité. C'est à toi de toute éternité. C'est à ton esprit. C'est à ton actif. Mais quand tu es venu sur cette terre, tu es venu nu. Tu es venu sans rien. Et là, dans le taméion, dans la chambre du trésor, ton trésor qui t'appartient de toute éternité apparaît dans le système créé. C'est ce que dit Paul aux Hébreux quand il dit « La foi fait sortir ce qu'on ne voit pas, la réalité, la foi fait sortir de ce qu'on ne voit pas, la réalité dont on a besoin. » Je paraphrase, mais c'est ça que ça veut dire, Hébreux 11, 1 à 3. « La foi fait sortir de ce qu'on ne voit pas, la réalité dont on a besoin. » Mais ça sort dans le taméion. Dans ta chambre, dans ton endroit secret, avec ton père qui est là dans le secret, il voit, il est dans la chambre secrète, la chambre du trésor, et il porte sur toi un regard de vie, de paix, d'amour. Maintenant, quand on dit le mot secret, évidemment, alors on pourrait faire une doctrine là-dessus, puis dire, on va prendre ça à la lettre, puis on ne va plus faire de réunion de prière, on va seulement prier en secret. Non, pas du tout, pas du tout. On va quand même continuer nos réunions de prière et prier aussi en famille, c'est important, parce que ce que Jésus dit là, dans ce passage des Écritures de Matthieu 6, il le dit à une personne, il faut regarder les mots qu'il emploie, il dit « mais toi quand tu pries », il ne dit pas « mais vous quand vous priez ». Il dit « mais toi quand tu pries, entre dans le taméion, dans ta chambre, quand toi tu pries ». Mais maintenant, il y a autre chose, Jésus parle aussi de prier ensemble. Comment est-ce qu'il faut prier, Seigneur? Eh bien, quand vous êtes là, vous priez, vous dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Essayez de dire le « Notre Père qui es aux cieux » quand vous êtes tout seul dans votre taméion, c'est ridicule. On ne peut pas dire « Notre Père qui es aux cieux » quand on est tout seul. Il me dit « Ah bon, moi je le dis ». Non, quand tu veux dire le Notre Père, quand tu es tout seul dans ta chambre, tu ne dis pas Notre Père, tu dis mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous comprenez, il y a une différence. Il y a des moments où on prie avec les gens et alors là on dit Notre Père parce qu'il est le Père à nous tous. Mais quand on est seul, on dit mon Père qui est dans les cieux. Il y a deux sortes de façons de prier. Deux prières, la prière seule et la prière avec ceux qui sont d'accord avec nous. Avec ceux qui sont d'accord avec nous. Ainsi, c'est avec des gens qui sont d'accord avec nous que nous pouvons prier. On ne peut pas prier avec n'importe qui. Matthieu 18, 19 nous dit « Là où deux ou trois sont d'accord sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père. » Il faut se mettre d'accord. Il faut se mettre d'accord. Alors, là, Jésus, dans Matthieu 6, là, il nous parle à nous personnellement. À toi quand tu pries. Toi quand tu pries. La prière personnelle, c'est très précieux. Moi, je pense que s'il n'y a pas de prière personnelle, la prière ensemble, elle n'est pas tellement forte. Il faut avoir une prière personnelle, une vie de prière personnelle, pour pouvoir ensuite avoir une vie de prière avec les autres qui est forte. Dans la famille, une vie de prière en famille, une vie de prière d'église. Parce que quand on prie, quand on est seul avec Dieu, on ne dit pas les mêmes choses. On est plus libre parce que même avec les gens qu'on aime beaucoup, beaucoup et qu'on sait qu'ils nous aiment beaucoup, beaucoup, on ne va pas dire n'importe quoi devant eux parce qu'il y a une gêne, il y a une retenue. Quand on est seul avec Dieu, il n'y a pas de retenue. On ouvre notre cœur. Puis de toute façon, il sait même avant qu'on dise, il sait les choses. Alors, on peut les dire. Moi, je trouve que c'est bien. Dieu veut qu'on dise parce que quand on dit les choses, ça le glorifie. Quand on dit, par exemple, comme cet homme qui dit, « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Quand on dit ça dans le secret, c'est magnifique. Dieu est vraiment glorifié. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Le Saint-Esprit, il est en vous. Et David, l'homme de Dieu, il parlait d'une façon magnifique. Je voulais lire dans psaume 27, comment il parlait, David. Il dit, « Pour moi, c'est-à-dire, pour moi, mon cœur dit, non, pardon, pour toi, excusez-moi, pour toi, mon cœur dit, c'est-à-dire de ta part, mon cœur dit, recherchez-moi. » Et il continue en disant, « Je te cherche, Seigneur. » Il dit, « Mon cœur, parce que dans mon cœur, il y a le Saint-Esprit de Dieu. Et dans mon cœur, il y a la voix de Dieu qui dit, « Cherchez ma face. » Mais à ta place, je dis, mon Dieu, dans mon cœur, « Cherchez ma face. » Alors, oui, je te cherche. Vous avez saisi? Vous avez saisi la nuance? N'attendez pas que Dieu te dise, n'attends pas que Dieu te dise, « Cherche ma face. » Il est dans ton cœur, et c'est là que tu dois l'entendre. Mais comment tu vas l'entendre si tu es sans arrêt en train de faire du bruit avec tes pensées, ou avec ton Walkman, ou avec... Enfin, non, c'est plus tellement les Walkman maintenant, c'est juste plus les Walkman. Hein. Maintenant, c'est les iPods, des machins. Faites attention, ayez des moments de silence devant Dieu, de tranquillité, où vous pouvez dire de sa part, « Cherche la face de l'Éternel. » Dans une intimité merveilleuse, entre un père et un fils, entre un père divin et un fils divin, une fille divine. Rien de mesquin, rien de bling-bling, mais juste de l'amour, rien que de l'amour et du bonheur. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur de nous apprendre toutes ces choses. Merci Seigneur pour la chambre du secret qui est la chambre du trésor que tu tiens en réserve pour nous. Alors que ces trésors ne nous paraissent pas, ne paraissent pas à nos yeux parce qu'ils sont encore dans l'invisible, lorsque nous sommes dans la bonne attitude avec toi, tu nous assures que tu les feras apparaître dans la réalité. Nous te bénissons d'avance, Seigneur Jésus. Nous te remercions, mon Dieu, parce que tu vas au-delà des doctrines, au-delà de toutes ces choses. Tu regardes le cœur et je te remercie, mon Jésus, de ce que tu donnes à chacun et à chacune, d'avoir une bonne vie de prière. Amen. Amen.